Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
8h40, qu'est-ce qui fait parler ce matin? On fait un point avec Benjamin Glaise.
Oui, Benjamin, ce sont à la une des journaux, finalement, l'assouplissement du confinement et les journaux qui font le bilan. Hein.
Oui, après les détails annoncés par Jean Castex, à l'instar de Midi Libre, qui distingue les perdants des gagnants. D'un côté, les commerces félicitent, de l'autre, les bars, restaurants et stations de ski affichent leur colère. Les stations de sport d'hiver, justement, c'est le dossier à la une de l'éclair des Pyrénées, le casse-tête des stations en montagne. Rouvrir, oui, mais sans remonter. Montée mécanique, prendre le grand air mais sans skier, en tout cas pas de quoi soulager les professionnels de la montagne. Du côté des stades, cette question dans la dépêche du midi, pourra-t-on accueillir de nouveau du public dès le 15 décembre? La ministre des Sports était hier à Toulouse à la rencontre des clubs durement éprouvés par l'épidémie. Roxana Maracineanu estime que c'est envisageable de revoir du public dans les stades dans moins de 3 semaines, une demande des clubs qu'elle promet en tout cas de porter auprès du Premier ministre. Enfin, dans la République des Pyrénées, on fait le point sur ce que l'on pourra refaire de nouveau dès demain, effectuer des achats, aller chez le coiffeur, mais aussi visiter un appartement, jouer au golf ou au tennis, seulement si c'est en plein air, bien sûr. Voilà quelques exemples en tout cas de ce qui va changer à partir de ce samedi.
Parce que le tennis en salle, évidemment, c'est très problématique. Bien sûr, les joueurs sont quand même à moins d'un mètre cinquante. Ils sont à moins d'un mètre cinquante. Ils ont oublié, c'est pas du tennis de table. D'ailleurs, au passage, hommage à Jacques Secrétin. Oui. L'actualité, c'est aussi la polémique qui a éclaté hier avec cette nouvelle affaire de violence policière.
Et c'est à la une de Libération, une première page en tout cas marquante de la part de Libération avec ce titre, la nausée en illustration, la photo du visage tuméfié de ce producteur de musique, un homme sur lequel se sont acharnés, nous dit Libération, donc des policiers samedi à Paris sans motif apparent, une vidéo d'une violence rare qui ajoute au trouble alimenté, nous dit Libération, par la succession des bavures et une dérive du pouvoir aux accents autoritaires.
Ah oui, merci, on va tout de suite du côté de Marseille avec Frédéric Chetin, dans la région, chef des Information générale à la Provence. Bonjour à vous.
Bonjour à vous.
Avec évidemment la colère des restaurateurs encore, avec cette manifestation hier qui a eu lieu dans la cité phocéenne.
Tout à fait, il y a une grosse manifestation avec entre 4000 et 5000 restos, barman et cafetiers, oui. des restaurateurs, des cafetiers qui sont venus non pas uniquement de Marseille et sa région, mais aussi de villes aussi loin que Menton, Montpellier, voire même pour certains Perpignan. Oui. Ils ont défilé pour dire qu'ils étaient au bout du bout, que certains étaient à deux doigts de la fermeture, et c'est déjà le cas. Oui. Il y a déjà des dossiers de restaurants qui ferment, qui sont en train de s'entreposer au tribunal de commerce. Oui. Là, la situation pour eux est très grave. Ils disent, nous, on a fait des efforts, on est prêt à faire encore et encore et encore des efforts, mais il faut absolument qu'ils ouvrent. Ça devient une question de survie. On n'est plus dans le confort d'un restaurant, on est vraiment dans la survie d'emploi, oui. de métier de passion, et ces gens sont en train de tout perdre.
Oui, ça c'est vrai. On va en parler dans un instant justement avec un restaurateur en ligne avec nous, mais ça nous conduit aussi à votre autre dossier sur la pauvreté avec des témoignages poignants, Frédéric.
Tout à fait. On a reçu le rapport de l'Observatoire des inégalités. Oui. C'est un rapport qui a été dressé en 2019, qui nous donne une vision de la pauvreté en 2019. C'était catastrophique. Oui. Selon le rapport, il y avait en France 5,3 millions de pauvres à cette date. On estime, les rapporteurs estiment, et là on est vraiment sur une base d'estimation, que la crise de Covid devrait rajouter entre 500 000 et 1 million de personnes en plus, donc qui souffriraient de pauvreté. Et sans surprise, une fois encore, notre région se classe au palmarès, si j'ose dire, des zones les plus pauvres. Imaginez, Marseille compte 16 arrondissements. Et bien, sur les 16 arrondissements, 10 appartiennent aux arrondissements les plus pauvres de France, à comparer avec 6 à Paris, pour 20 arrondissements, ou 3 à Lyon.
Ouais.
Parmi les départements les plus pauvres, on a bien évidemment les Bouches-du-Rhône, également le Vaucluse, le Gard qui est à proximité immédiate, et la Haute-Corse. Ouais. Des situations terribles et qui sont illustrées par les témoignages qu'on a eus de gens qui nous disent, nous, à partir du 15 du mois, on n'a plus rien pour vivre. Ouais. Heureusement, Marseille est une ville assez très solidaire, où des gens se mobilisent en quantité extraordinaire pour apporter un soutien alimentaire, ouais. un soutien sanitaire et un soutien également psychologique à des gens qui sont dans une véritable détresse.
Ouais. Merci beaucoup, Frédéric Chetin, chef des informations générales de la Provence. Et je signale au passage aussi qu'il y a un reportage sur Robert Guédiguian au Sénégal. Et puis les fameux calendriers de l'Avent.
Oui, et on parlait justement des restaurateurs, des des hôteliers, des traiteurs qui se sont adressés au président de la République par un cri de détresse. Thierry Fontaine est avec nous, président de l'UMNI Nuit, qui est la branche des métiers de la nuit et propriétaire de 4 établissements à Lyon.
Oui, bonjour Thierry Fontaine.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Donc il y a cette tribune qui est parue hier soir dans le Figaro. Monsieur le Président, au nom de tous les restaurateurs silencieux et à bout, vous voulez l'interpeller une nouvelle fois parce que... Pourquoi ? Parce que vous êtes à bout et cette date du 15 janvier est trop loin ?
Cette date du 20 janvier.
Du 20 janvier,
c'est encore plus loin. Ouais. Du 20 janvier est trop loin, et surtout elle n'est pas logique, si vous voulez. À un moment donné, que le gouvernement ne sache pas bien, puisque personne ne savait bien où on allait finalement dans cette crise, au premier confinement, soit on l'a accepté, on s'est dit bon c'est comme ça, il y a un virus, c'est dangereux, on ne sait pas où on va. Je pense que depuis, on aurait eu le temps de faire une étude, on est la 6e puissance économique mondiale, on aurait eu le temps, une étude, ça ne coûte pas non plus des milliards, ça coûte 1 million,
ouais.
De savoir... Qu'est-ce qui était contaminant ? De savoir si, en effet, les restaurants, les discothèques, les cafés, les bars, les brasseries étaient contaminants. Et là, on aurait pu peut-être accepter notre sort. Mais il n'y a aucune étude qui a été faite. C'est-à-dire c'est de la bureaucratie qui a décidé arbitrairement de fermer tel ou tel pan d'activité et de jouer avec la vie des gens.
Parce que les établissements, vous pouviez vraiment vous adapter avec une séparation en fait beaucoup plus grande. Alors c'est vrai que c'est pas terrible d'avoir des plexis et d'avoir tout ça en fait dans les restaurants, mais en même temps, les gens étaient prêts en fait aussi à ça, quoi, non ?
Oui, les gens étaient prêts à ça, mais encore une fois, avec quelle étude, si vous voulez ? On prend des mesures, on inscrit des règles, des protocoles, mais on joue aux apprentis sorciers. Sauf que dans l'apprenti sorcier, il y a des vies sociales, il y a des vies de travail, il y a de la pauvreté, il y a de la précarité, il y a tout ce qu'on veut. Il y a des gens qui vont en arriver au suicide, il y a déjà des restaurateurs qui sont passés à l'acte. Qu'on arrête ça, qu'on ne peut pas jouer avec la vie des gens, ni dans un sens, ni dans l'autre, c'est-à-dire ni avec le côté sanitaire et du virus, mais pas non plus avec le côté économique. Qu'on nous dise dans une étude, oui, en effet, quand on est à 1 mètre dans un restaurant, on est contaminant, on fait ci, on fait ça, mais dans tout, même dans une discothèque, des protocoles ont été déposés, qu'est-ce qui vaut mieux ? Les médecins nous parlent de bénéfice-risque à longueur de journée. Ouais. On est d'accord ? Nous aussi, on parle de bénéfice-risque. Fermer nos établissements, que ce soit les cafés, les restaurants, les hôtels, les discothèques, ça fait quoi ? Ça pousse les gens à se retrouver chez eux. Et là, faites-moi croire qu'il y a des mesures barrières, faites-moi croire qu'il y a du gel hydroalcoolique à la porte d'entrée, faites-moi croire que les gens ont le masque tout le long d'un repas. C'est pas possible. Ouais. On le sait. C'est ou de la naïveté ou de l'hypocrisie. Ouais. C'est ou l'un ou l'autre.
Et puis, il y avait peut-être la possibilité, je pense, en fait, les discothèques, c'est un peu plus sensible, évidemment, à cette question, mais il y a peut-être la possibilité d'avoir des tests et que les gens viennent avec un test, quoi. Avérant qu'ils étaient négatifs et les autres, isolement, quoi.
Mais exactement. Vous me parlez des discothèques. Pourquoi les discothèques ne pourraient pas participer à la politique globale de test du gouvernement ? Aujourd'hui, on sait que les jeunes sont des vecteurs de propagation parce qu'ils sont asymptomatiques. Moi, je ne les stigmatise pas du tout. Tant mieux pour eux qu'ils soient symptomatiques. Mais ils propagent le virus. Donc ces jeunes, ils ne vont pas se faire tester dans les centres. Donc, ils continuent à diffuser le virus, malheureusement, malgré tous les efforts qu'on fait. Si on disait aux jeunes, pour rentrer dans une discothèque, il faut vous faire tester avant, eh bien, ils iraient sans doute se faire tester. Et on pourrait, en effet, identifier les jeunes, les tracer, les isoler et éteindre la contamination et la propagation, au moins dans cette clientèle.
Ce serait
déjà un effort.
Ce serait déjà
pas mal.
Merci hein, Thierry Fontaine. Si vous voulez, vous pouvez rester avec nous parce qu'il y a Éric Revel et Philippe Bilger. Et Éric, vous voulez réagir parce que vous avez, dans votre chronique, évoqué justement toutes ces difficultés des restaurateurs tout à l'heure, il y a 20 minutes. Oui, Éric.
Oui, bien sûr, j'écoute avec beaucoup d'attention ce qui vient d'être dit. Il y a beaucoup d'incohérences pour cette profession et encore une fois, on comprend toute cette colère qui monte, qui ne cesse de monter.
Non, mais c'est parce qu'il y a un secteur, effectivement, économique, toute une filière qui est en danger, quoi.
Oui, oui, mais je parlais tout à l'heure de cette idée annoncée par les autorités qui, moi, me semble complètement brinque-ballante. Vous savez, quand on serait en dessous des 5000 cas positifs par jour, on pourrait imaginer la réouverture des restaurants, des bars et discothèques, mais pourquoi 5000 ? On n'en sait rien. Pendant combien de temps il faudrait être en dessous des 5000 cas ? On n'en sait rien non plus. Et si on arrivait au seuil des 5000, en dessous des 5000, avant le 20 janvier, est-ce que le gouvernement rouvrirait les restaurants plus tôt ? Est-ce qu'il s'est seulement posé la question au gouvernement ? Est-ce qu'il s'est posé ces questions ? Vous voyez, c'est pour ça qu'on disait, certains restaurateurs hier à Marseille ou dans d'autres villes du Sud parlaient de dictature sanitaire, parce qu'ils ont vraiment l'impression, ils ont vraiment l'impression d'être dans le collimateur. Ouais. Et ce que disait notre intervenant il y a deux minutes est très juste. On a parlé de cette étude aux États-Unis qui prouverait, paraît-il, que dans les restaurants, dans les bars, dans les discothèques, bien sûr, ce seraient des lieux de contamination. Mais il n'y a jamais eu de cluster, à mon sens, enfin, si je me souviens bien, déclaré dans la restauration. Et deux, pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait une étude française concrète dans les territoires les plus impactés pour voir quelles mesures fallait mettre en face de... dans ces restaurants, si vraiment ils étaient très contaminants, vous voyez.
Absolument. Merci Eric, et merci Thierry Fontaine. On poursuit aussi dans le petit déjeuner de l'actualité avec vous, Philippe Bilger. Philippe, vous vouliez, on change un peu de sujet, vous vouliez revenir sur des déclarations de Claude Guéant à propos de Nicolas Sarkozy, et, parce qu'il y a le procès en fait Sarkozy en ce moment.
Voilà. En effet, Patrick Roger, d'abord, il y a une bonne nouvelle, puisque une expertise a indiqué que Gilbert Azibert pouvait se présenter devant le tribunal et le procès reprendra lundi. Mais j'ai été frappé par les déclarations, en effet, de Claude Guéant. Je comprends le soutien qu'on peut apporter à son ancien patron, et il y a même une forme de fidélité à laquelle on peut rendre hommage. Mais lorsque Claude Guéant se permet de dire que le procès de Nicolas Sarkozy est un fort recul démocratique, je trouve qu'il pousse un peu loin le bouchon intellectuel et judiciaire. Deuxième élément, il me semble qu'il fait une analyse juridique qui n'est pas exacte des conversations entre un avocat et son client, mais ça, c'est le tribunal qui arbitrera plus tard.
Bah oui.
Et troisième élément, Patrick, Nicolas Sarkozy a indiqué il y a quelque temps que Claude Guéant et Brice Hortefeux s'étaient rendus en Libye, pas du tout à son initiative, qu'ils avaient eu une démarche autonome. Eh bien, je suis étonné de voir que Claude Guéant, qui est impliqué dans un certain nombre de procédures et qui lui-même a déjà été condamné, se croit autorisé à donner une attestation en quelque sorte de moralité à Nicolas Sarkozy. Qu'on laisse la justice faire. Si dans quelques mois, une relaxe est accordée aux trois prévenus, je n'y verrai aucun inconvénient. Oui. Mais qu'on arrête de proférer... à mon sens, des absurdités sur ce procès.
Bon, mais mon cher Philippe, vous n'êtes pas né de la dernière pluie. S'il y a cette déclaration, c'est pas innocent, non, c'est parce que, évidemment, on avait l'impression que Nicolas Sarkozy avait laissé tomber Claude Guéant il y a quelques temps. Est-ce que ce n'est pas, de la part de Claude Guéant, une volonté d'essayer de se raccrocher, en fait, un petit peu pour que qu'il fasse un peu la paix et qu'il revienne un peu là-dessus non, c'est ça ?
Patrick, que le ressort de Claude Guéant soit celui que vous dites, c'est une évidence. Il tente à tout prix de se remettre dans la bienveillance de Nicolas Sarkozy, mais je dirais cette manière trop ostensible de venir à son secours, alors que Nicolas Sarkozy est assez grand pour se débrouiller tout seul lors de son procès avec ses excellents avocats, rend cette démarche un petit peu ridicule. Claude Guéant ferait mieux de s'occuper de ce qui lui est reproché et au fond qu'il laisse Nicolas Sarkozy affronter seul un procès et encore une fois, s'il y a une relaxe au bout, eh bien ça voudra dire que la justice a bien fonctionné, mais mon Dieu que des gens ne se mêlent pas du cours d'un procès sur lequel ils n'ont rien à dire.
Oui, mais restez avec nous Philippe, c'est au 0826 300 300, c'est Arnaud de Thiers qui est avec nous. Bonjour Arnaud.
Bonjour Sud Radio, bonjour Patrick.
Oui, bon, vous ne voulez pas réagir sur Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, mais plutôt sur les... voilà, c'est, vous voyez, il y a autre chose en fait en ce moment.
Hein, le sujet n'est pas intéressant.
Oui, hein, bah, non, bien sûr.
Non, j'ai sélectionné.
Oui, non, vous, c'est plutôt sur les décisions gouvernementales justement par rapport au Covid. Hein.
Oui, tout à fait. D'abord, je constate avec amertume, regret que M. Macron a réussi quand même à créer l'unité nationale derrière lui, puisqu'il a quand même réussi à transformer les restaurateurs quasiment en gilets jaunes. Nous en sommes pas loin. Ça, c'est un point sur lequel il a vraiment bien réussi en moins d'un an. Non, je voulais revenir un petit peu. Je voulais revenir un petit peu sur les décisions gouvernementales et je voulais poser le problème suivant.
Oui.
Je trouve qu'on manque de recul par rapport à la situation du Covid.
Mm-hmm.
Et j'invite, j'ai posé un peu le calcul. Je constate que dans le monde, il y a 1,4 million de morts dus au Covid.
Oui.
Les chiffres, je les ai regardés ce matin.
Oui.
Sur à peu près 7 milliards d'habitants, ce qui fait un pourcentage de 0,02%. Nous arrivons à peu près à 0,07% en France, si nous faisons le calcul de 50 000 morts sur 67 millions de Français. Et je constate, et j'aimerais poser la question à tous les chefs d'entreprise, à tous les chefs de projet, je suis ingénieur, je suis chef de projet,
ouais.
J'aimerais savoir s'ils oseraient mettre tout le budget de leur projet, tout le budget de leur société, sur un risque équivalent en termes de pourcentage.
Oui.
C'est déjà une première question. C'est-à-dire que n'importe quel décisionnaire, n'importe quel dirigeant ne prendrait pas une telle décision.
Oui.
Or, aujourd'hui, le gouvernement français l'a fait.
Oui.
Donc, on peut vraiment se poser des questions sur les outils qu'ils utilisent
pour prendre des décisions. Le gouvernement rétorque, et comme ailleurs d'ailleurs aussi, risque sanitaire.
Oui, mais risque sanitaire, c'est un risque, et comme tout risque, il s'évalue de la même façon.
Ouais.
Probabilité, impact.
Ouais.
Et pourcentage de mise en place.
Ouais.
Donc, les outils, si vous voulez, de réflexion qui permettent de gérer soit une entreprise, soit un projet, soit un pays, doivent être les mêmes.
Ouais.
C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont créés, ces outils-là. C'est bien pour prendre des décisions, sans âme et conscience, avec eux. En s'appuyant bien sûr sur une aide mathématique, sur une aide logique.
Bon. Ouais.
Et j'aimerais d'ailleurs rebondir là-dessus, si vous me le permettez, pour dire que aujourd'hui, il y a beaucoup d'annonces qui sont faites dans le monde et en particulier en France sur la mise en place d'un vaccin d'ici quelques mois, quelques semaines. Bon, on ne sait pas trop, avec un taux de confiance de 95%.
Ouais.
Ça veut dire qu'il y a un taux de risque de 5%. Et cette fois-ci, nous en sommes non plus à 0,02%, mais 5%. Alors si on fait le calcul inverse, et si l'on impute ces 5% de risque sur 7 milliards de personnes autour du monde, nous arrivons à un risque qui va s'appliquer sur 350 millions de personnes.
Ouais.
Et c'est complètement différent des 1,4 million.
Ah ben non, mais c'est intéressant, hein, Arnaud, vos calculs, effectivement, je sais que j'ai vu sur les réseaux sociaux un certain nombre de personnes poser les mêmes genres de problématiques, et vous avez raison de les poser, et là, je salue en fait votre travail, justement, aussi en tant que chef de projet, de dire, voilà, il faut mesurer, calculer les risques à chaque fois. On va en parler, tiens, juste après 9h, parce que c'est le journal, le flash dans un instant, et on se retrouve après.
On parlera des remontées mécaniques et puis des concessionnaires automobiles. Et Jean-Louis Debré sera avec nous pour son livre La Rumeur. À tout de suite.
Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus.
Même si les commerçants sont ouverts, les remontées mécaniques restent fermées. C'est la colère des professionnels du ski alpin aujourd'hui, avec Laurent Garcia, directeur de la station de ski Peyragudes dans les Hautes-Pyrénées.
Oui, on va faire un tour. On va faire un tour d'ailleurs aussi dans tous les commerces, puisque on va regarder du côté des concessions automobiles. Il y a les agences immobilières qui vont rouvrir. Il y a les coiffeurs. J'en ai bien besoin. Pas vous, Cécile, ça va. Et puis il y en a beaucoup d'autres aussi, évidemment, tout ce week-end, avant de recevoir Jean-Louis Debré dans un quart d'heure maintenant. Laurent Garcia, bonjour.
Oui, bonjour.
Bon, alors, j'imagine qu'on l'a déjà dit hier, mais c'était la douche glaciale pour vous dans les stations de ski. Là, deux jours après, puisque maintenant, vous le savez, vous n'allez pas pouvoir ouvrir les remontées mécaniques, comment vous vous organisez et quel est votre sentiment, là ?
Est-ce que déjà on ne va pas pouvoir ouvrir ? Je ne suis pas sûr que ce soit définitif et tenable pour le gouvernement. Est-ce que le gouvernement aurait pu dire au mois de juillet qu'il allait autoriser les départs au bord de la mer, mais que les Français ne pourront pas se baigner.
Ah oui.
C'est pas tenable. C'est un discours qui est absolument stupéfiant. Et donc, nous estimons qu'il faut résister. Et nous avons beaucoup d'arguments pour faire comprendre qu'au plan sanitaire, le ski ne va pas engorger les hôpitaux. Une station comme Peyragudes, ça représente sur un hiver entier moins de 15 personnes blessées qui vont dans les hôpitaux de proximité. Tout le reste des blessés, 600 environ, de la bobologie et toutes sortes, sont traités sur la station. Donc il y a effectivement une stigmatisation sur l'activité du ski et non pas sur la montagne.
Ouais. Mais alors comment vous allez faire? Comment vous allez vous battre encore? Vous espérez encore, ça dit, il y a 3 semaines, un mois encore avant les fêtes. Hein, donc vous espérez que par exemple mi-décembre ça aille mieux, la situation sanitaire en France, et que vous puissiez quand même ouvrir?
On a aujourd'hui des arguments qui font qu'au niveau de la protection sanitaire et des regroupements, on est tout à fait en capacité de maîtriser la situation. Nous l'avions montré.
Oui.
Nous avions démontré que si on peut pas faire du kit en collègue pour prendre des skis et les emmener chez soi, c'est impossible. Oui. En revanche, on a des solutions dématérialisées, totalement éprouvées, qui nous permettent de résorber au maximum l'attente dans les caisses.
Oui.
Une attente en file d'attente, c'est comme dans le métro. En plus, ça se passe en plein air, c'est masqué, c'est obligatoire, mais on fait cet été. Donc qu'est-ce qui empêche de skier au plan sanitaire, si ce n'est le risque que perçoit le gouvernement d'avoir des hôpitaux engorgés?
Ouais.
Et nous avons tout mis en place avec d'autres professions pour traiter ces blessés-là, d'abord sur les stations comme on le fait toujours, et raisonnablement s'appuyer sur des hôpitaux privés qui pourraient organiser des secours de substitution.
Mmh.
Mais à Noël, rappelons-le à vos auditeurs, c'est pas la majorité des skieurs qui sont
rebouchés
les vacances de Noël.
Ouais.
Le pic de fréquentation est en février.
Oui, ouais, c'est vrai. Bon, mais vous invitez Jean Castex, il connaît quand même un petit peu la montagne, Jean Castex, il n'est pas très loin de chez vous, hein. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, vous l'invitez à venir à la station pour voir, vous allez lui montrer où Emmanuel Macron ou le ministre de la Santé pour leur montrer ce qui se passe véritablement sur le terrain. Je ne sais pas s'ils y sont allés d'ailleurs, quoi.
Récemment, à ma connaissance, nous avons eu des discussions qu'avec les préfets qui nous ont aidés à construire des plans de prévention, et avec les préfectures dans tous les massifs, nous avons travaillé à un protocole sanitaire des stations de ski de plus de 80 pages. Une discussion a été ouverte encore normalement pour une dizaine de jours, elle a été refermée. Et donc, je rappelle quand même que la France est souveraine dans sa décision et que les Espagnols, forts de cette souveraineté, décident d'ouvrir avec les mêmes problématiques sanitaires que nous pouvons rencontrer ici en France.
Les Espagnols vont vraiment ouvrir, alors, parce que vous avez vu, au niveau de l'Union européenne, il y a quand même les dissensions. L'Allemagne va fermer, l'Autriche devrait ouvrir, la Suisse va ouvrir, mais l'Italie va fermer aussi. C'est vrai que, voilà, situation hétéroclite, hein.
C'est pas hétéroclite, c'est simplement les Italiens font face à des difficultés qu'on connaît déjà depuis des mois, hein, et qu'ils se sont appuyés sur l'Allemagne en disant qu'il faudrait que l'Europe s'aligne.
Mmh.
L'Allemagne n'est pas une destination de ski, lequel de vos auditeurs pourrait me citer le nom d'une station de ski en Allemagne?
Il y en a un petit peu en Bavière,
Il y en a un peu en Bavière, voilà, on en connaît une qui est réputée pour accueillir les Jeux Olympiques il y a quelques années dans des conditions un peu tragiques.
Ouais.
Donc simplement pour dire que l'Allemagne s'est alignée, Madame Merkel, qu'est-ce qu'elle a dit à ses ressortissants, elle a dit « Vous ne pouvez pas aller en séjour de ski ». Elle a parlé de séjour de ski. Donc elle fait du protectionnisme économique pour garder les gens chez elle.
Ouais.
Donc, alors que les Espagnols s'appuient sur la souveraineté des pays européens, et c'est écrit aujourd'hui dans les médias espagnols, ils ont le droit de décider une ouverture.
Bon.
L'ouverture, elle a des avantages, c'est de protéger la clientèle. Et c'est ce qu'il faut comprendre.
Ouais,
aujourd'hui, si une station de montagne est ouverte, qu'il y a de la neige, parce qu'on va préparer les terrains, les gens pourraient faire librement de la luge, de la raquette, sur des pistes non sécurisées, non jalonnées, non protégées des avalanches. Quoi qu'il se passe au niveau météo, qui va être responsable?
Ouais.
Nous ne serons pas ouverts, nos salariés ne seront pas là pour assurer la protection des vacanciers.
Ouais, non mais c'est vrai, donc du coup il y a plus de dangers. Merci Laurent Garcia, directeur de la station de ski de Peyragudes, et on va suivre, on sera avec vous et avec l'ensemble en fait des professionnels pour voir comment ça va évoluer. Philippe Bilger, avant de retrouver un concessionnaire automobile dans un instant, Philippe, vous avez entendu la plaidoirie de Laurent Garcia, vous l'ancien magistrat, qu'est-ce que vous en pensez de sa plaidoirie? C'est plutôt pas mal quand même la plupart des restaurateurs, non ?
Tout à fait, Patrick, mais je comprends parfaitement la détresse économique et sociale de ces secteurs capitaux pour notre pays et leur incompréhension. Mais je voudrais attirer votre attention sur le fait qu'il y a eu un sondage récent qui a été exposé par Brice Teinturier qui montre un phénomène un peu intéressant, oui. c'est que l'opinion publique a changé de nature. Il y a quelques semaines, elle était surtout préoccupée par le désastre économique et social. Et aujourd'hui, c'est la crainte sanitaire qui a pris le dessus. Mmh. Et je me demande si le pouvoir ne s'appuie pas un petit peu sur ce changement de tonalité.
Oui, bon. Allez, on poursuit, Cécile.
Mmh. Ah. Eh bien, vous allez pouvoir acheter une voiture avec des concessions automobiles qui rouvrent demain. Christophe Cyril est avec nous, concessionnaire automobile, président de Berbiguier Premium Automobile et La Charrette 1807.
Oui, bonjour, bonjour Christophe Cyril.
Bonjour.
Présent dans tout le Vaucluse, dans le Grand Sud, hein, globalement, du côté de Toulouse aussi. Alors, donc, vous êtes prêt à rouvrir demain. Comment ça va se passer? Alors, il y a des jauges également pour aller dans les concessions?
Alors absolument, il y a les jauges qui ont été relevées puisqu'elles sont passées à 8 mètres carrés par personne. Mmh. Alors l'avantage qu'on a nous dans les concessions, c'est globalement on a quand même des gros showrooms, donc ce qui fait que même avec les 8 mètres carrés par personne, on a de quoi largement accueillir beaucoup de monde chez nous. Toutes les conditions sanitaires, hein, parce que je pense qu'effectivement les consommateurs sont quand même préoccupés hein, par ces conditions-là. Donc nous on a un plan de continuité d'activité qui a été mis en place. On a un référent Covid qui est en place, qui fait que tout est fait pour que les gens qui viennent nous rencontrer soient en totale sécurité. Oui. Ils peuvent être sereins.
Oui. Et puis, ça a changé, hein, Christophe Cyril, quand même aussi, la façon de consommer ou d'aller acheter en fait, la voiture. On se renseigne beaucoup, dans un premier temps, en amont sur Internet, etc. Et ensuite, on vient pour aller à un acte de conseil et puis peut-être d'achat derrière dans les concessions, quoi.
Bah, clairement, hein, je dirais qu'aujourd'hui, toute la découverte se fait via Internet. Hein, c'est pour ça que nous, on a ouvert aussi un site hyper… on est très présent, entre guillemets, sur Internet pour que les consommateurs soient vraiment informés. Et après, ils viennent se rassurer en concession et laisser hein, ils montent dans la voiture, ils essayent leur voiture. Et à partir de là, après, ils concrétisent. L'idée, aujourd'hui, le consommateur, c'est comme ça qu'il a envie de fonctionner.
Mais les incertitudes là, liées à la crise économique, est-ce que ça va avoir un impact, j'imagine, quand même un peu sur les ventes de voitures, non?
Bien entendu, hein, vous savez, on a quand même fermé quasiment 3 mois. Donc, 3 mois dans une année, ça fait beaucoup. Alors, la chance qu'on a eue, c'est vrai que c'est qu'après le premier confinement, on a eu un redémarrage qui a été assez important, ce qui nous a permis de limiter la casse. Mais j'avoue que celui qu'on vient de vivre là, on ne l'avait pas tout à fait prévu.
Ce qui veut dire que c'est le marché de l'occasion peut-être qui va être, parce que les gens ont toujours besoin de se déplacer quand même, qui va être peut-être plus actif.
Bah, écoutez, ça va dépendre un petit peu de deux choses. La première, c'est quel va être le comportement du consommateur par rapport aux aides qui existent aujourd'hui sur les voitures électriques et les voitures hybrides. C'est quand même majoritairement sur les voitures neuves que l'aide est la plus importante. Après, sur les voitures d'occasion, bien entendu que le marché est beaucoup plus important, il y a beaucoup plus de choix, il y a des prix qui sont
adaptés à tout le monde.
Ça touche plus de monde. Ça touche plus de monde. Donc bien sûr, ce sera plus important sur les voitures d'occasion.
Bon, bah écoutez, on aura l'occasion d'en reparler et notamment sur ce que vous avez évoqué, hein, c'est-à-dire l'électrique, l'hybride recharge. L'essence, etc. Mobilités. Parce que les nouvelles mobilités, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis, c'est vrai qu'on achète moins sa voiture, on la prend davantage aussi, parfois, en location longue durée. Hein, ça marche beaucoup. Merci, Christophe Cyril. On vous laisse aller vous préparer pour ce week-end, hein, du côté du Vaucluse, du côté de Toulouse, etc.
Et on croise les doigts pour vous. En tout cas, dans un instant, Jean-Louis Debré sera avec nous, ancien président du Conseil constitutionnel à l'Assemblée nationale. La rumeur. Bah, cette audition,
mais vous allez voir,
Robert
Laffont. C'est un roman.
La rumeur en politique. Ouais. Et vous allez voir que c'est pas qu'une, comme on dit Patrick, c'est pas qu'une rumeur justement.
Non,
ça existe vraiment.